Il est le musicien qui sublimait les tournées de Jean-Jacques Goldman, un artiste au saxophone enflammé qui veillait souvent tard pour nous offrir des solos légendaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un professeur, un simple professeur qui reste à jamais dans la légende de la chanson française. Prof Pimpin, bonjour.
Oui, bonjour, ça va?
Ça va et vous? Merci de...
Je suis à La Réunion, il fait beau, tout va bien. Je suis en train de réfléchir à un concert que je vais bientôt faire au mois d'avril, là, avec un sextet de jazz funk inédit. Donc voilà, je suis en pleine... En pleine
préparatif.
De création.
Écoutez, voilà. Je suis ravi de vous avoir ici chez Mélodie, enfin à distance chez Mélodie. Vous connaissez le principe de l'émission. Chaque invité se confie sur son plaisir qu'il pense démodé dans la chanson française. Et donc, avant de revenir sur votre carrière, votre collaboration avec Jean-Jacques Goldman, Prof Pimpin, quel est votre plaisir démodé de la chanson française?
Alors, on va dire un morceau d'Henri Salvador qui s'appelle Rock'n'Roll Mops. Alors, je ne sais pas si vous allez le retrouver.
Oui, c'est dans quelle année? Dans les années 50?
Oui, c'est le premier rock en France.
Voilà, c'est ça. sous le pseudonyme d'Henri Cording, il avait sorti son premier rock.
Exactement, avec des paroles de Boris Vian et musique de Michel Legrand.
Ah, et donc pour vous, c'est démodé.
Mais avec des...
Ouais.
Ah ben oui, c'est complètement démodé, j'imagine. Enfin, je sais pas, mais vous l'entendez des fois, vous, à la radio?
Alors, chez Mélodie, on a la particularité de passer les chansons qui ne passent plus ailleurs. Donc, en tout cas, on la diffusera et je vous donnerai l'heure de diffusion.
Ok, super.
Bon, Henri Cording, donc Henri Salvador. Très bon choix pour ce plaisir démodé. Mais bon, entre nous, il y a un plaisir qui n'est pas démodé, en tout cas, c'est de réécouter les albums de Jean-Jacques Goldman dans lesquels vous êtes présent. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez été musicien de Jean-Jacques Goldman de 1982 à 1989, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Sur l'album Minoritaire jusqu'au dernier album live, l'album Trace. On se souvient bien sûr de vos solos sur Veillez tard, sur Petite fille ou même sur Famille, on y reviendra. Tant de titres qui sont devenus cultes pour les amateurs de Goldman et les amateurs de chansons françaises. Comment s'est passée votre première rencontre avec Jean-Jacques Goldman?
Alors, c'était en 1981. À ce moment-là, je signe avec la maison de disques CBS. Et notamment avec la Columbia, qui est devenue par la suite Sony, Sony Music, et notamment sur le label, ils avaient un label qui s'appelait Epic Sony.
Exactement.
Epic à l'époque. Et je signe sur Epic avec mon groupe Sax Pistols, et je rencontre évidemment les autres artistes qui étaient donc on monte à Neuilly, ils avaient leur bureau à Neuilly à l'époque. Et on monte à Paris pour ça, etc. Et là, dans les bureaux de CBS, je rencontre d'autres artistes, dont Jean-Jacques Goldman, qui avait signé aussi chez Epic Sony, donc sur le même label. Donc en fait, notre rencontre a été vraiment une rencontre musicale. Voilà, donc on s'est trouvé des goûts communs comme ça, qui ont fait que on a sympathisé, on a parlé... Et il était assez timide, mais très sympathique, très simple.
Ok.
Assez vite, on s'est retrouvé à la cantine de CBS pour déjeuner, pour discuter, et puis on s'est retrouvé. Donc voilà. Et on a senti une sympathie, quoi. Voilà, comme ça. Mais on était quand même dans des chemins a priori très éloignés.
Et quand vous vous rencontrez, vous commencez tout de suite ou dans les semaines qui suivent à travailler sur l'album Minoritaire ou il y a eu un temps de...
Non, pas du tout.
Ok.
Non, pas du tout. En fait, quand je rencontre, moi, je signe en mai-juin 1981. C'est à ce moment-là qu'au bout de 6 mois de passage radio intensif, commence à décoller le single Il suffira d'un signe pour Jean-Jacques. Donc il suffira d'un signe, commence à marcher à ce moment-là. Et il commence à être connu, mais ça a mis au moins 6 mois. Moi, je viens juste de sortir mon Kraus à Tours. Bon, voilà, on fait un peu de promo, etc. Mais on se rencontre dans les... Voilà, on fait connaissance dans les bureaux de CBS. Ça nous arrive de discuter, de manger ensemble, etc. Mais pour l'instant, rien de spécial. Sauf que, en fait, quand Jean-Jacques décide d'enregistrer son deuxième album, vous dites minoritaire. Mais en fait, ça, c'est le titre qu'il voulait mettre. Mais en fait, c'est un titre éponyme.
Oui.
L'album est connu sous le nom Jean-Jacques Goldman. Puisque le titre minoritaire qui est dedans ne plaisait pas forcément à la maison de disques. Donc moi j'ai fait des séances pour Quand la musique est bonne et pour
Veillez tard
j'explique hein. Et après pour Au bout de mes rêves. Mais en fait, c'est pas moi qui ai été retenu pour Au bout de mes rêves et Veillez tard, parce qu'il y avait un autre saxophoniste,
Patrick Bourgoin,
un grand saxophoniste. Voilà, un grand saxophoniste de studio qui travaillait beaucoup dans les studios, ce qu'on appelle un requin de studio, qui était très connu dans le milieu. Il travaillait notamment beaucoup avec France Gall et Michel Berger.
Okay.
Et comme on enregistrait au studio Gang, en face de la gare d'Austerlitz à Paris, le studio Gang, là où d'ailleurs Jean-Jacques a enregistré avec Johnny pour son album.
Mm-hmm.
Après. On avait enregistré là avec Jean-Pierre Janiot, qui travaillait beaucoup avec, qui était vraiment l'ingénieur du son de France Gall et de Michel Berger. Donc Patrick Bourgoin avait été convié pour faire des séances. Et c'est son saxophone, qui était beaucoup plus à l'aise dans cette musique-là, qui a été retenu pour Veillez tard et pour Au bout de mes rêves. Mais quoique Au bout de mes rêves, de toute façon, le solo était écrit de A jusqu'à Z. Hein. L'intervention
okay.
était vraiment écrite. Jean-Jacques ne donnait pas les partitions, il chantait ce qu'il voulait entendre.
D'accord, ok.
En fait, il jouait à la guitare, comme quand la musique est bonne. Ça, il le chante et on essaie de le reproduire. Et moi, j'avais été gardé pour Quand la musique est bonne. Mais quand on écoute bien, en fait, si on écoute au casque la version originale, on se rend compte qu'il y a deux saxophones. En fait, il a gardé les deux. Il y a le saxophone de Bourgoin et le mien. Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est pour l'anecdote, pour le premier enregistrement. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on sort du studio, on va boire un verre, et là, je dis à Jean-Jacques, tu sais, moi, j'adore le studio, j'aime beaucoup ça, c'est kiffant et tout, mais moi, je préfère par-dessus tout la scène.
Mmh.
Et si jamais tu pars en tournée, si tu décides de faire la scène, n'hésite pas à m'appeler, ça m'intéresse.
Mais lui, il ne voulait pas faire de scène à l'époque.
Et Jean-Jacques me répond, « Ah non, moi, je ne veux pas faire de scène, je ne suis pas sur scène, j'aime pas ça, je ne me sens pas bien, je suis trop timide.
Ouais. »
Donc le temps passe et quelques mois plus tard, je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil de la production un an plus tard, en 83. Donc moi je dis bah ouais, ça m'intéresse. Donc la première tournée qui composait une quinzaine de dates à peu près, c'était avec cette équipe-là et c'était en octobre 83. Et là, il faut dire que Jean-Jacques sur scène, effectivement, était rivé sur son micro avec sa guitare,
oui.
Ne bougeait pas du tout, avait un côté très coincé, etc. Mais voilà, donc, et à partir de ce moment-là, moi je suis resté jusqu'en 89, j'ai fait toutes les tournées. Je suis le seul survivant de cette première tournée avec Michael Jones.
Michael Jones, bien
donc
sûr.
Il nous a gardés tous les deux, et il a préféré prendre des musiciens qui étaient moins, on va dire, aguerris, enfin moins, voilà, qui avait moins ce statut de requin, entre guillemets, enfin de musicien expérimenté pour la scène, mais plus une bande de potes. Et donc, il avait dit à Michael Jones c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la bande des Nantais qui sont arrivés à ce moment-là, avec le batteur Jean-François Gauthier, le clavier. Alors au départ, c'était Bruno Sabaté, il y avait Lance Dixon, il y avait évidemment Claude Le Perron. Donc et là, c'est la tournée 84-85. Et c'est cette tournée-là qui va vraiment, vraiment, vraiment donner ensuite l'album en public.
En public. Alors, si vous le voulez bien...
Qui sortira en 80, en 86, je crois. Et qui a été enregistré à Lille, hein ?
Oui.
Vous le savez, ça ?
Oui, c'était, il me semble que je l'avais vu sur la pochette de l'album. Donc, ça a été fait
ouais,
chez nous.
Ouais.
Et il y a un solo légendaire que je vous propose d'écouter maintenant. De 4 minutes, prof Pimpin, sur Petite Fille. Mais c'est extraordinaire. Enfin, on a envie de l'écouter 150 fois, ce solo.
Ah oui, alors c'est marrant parce que c'était vraiment l'idée de Jean-Jacques. Hein. C'est, en fait, je crois que bon, Jean-Jacques écoutait des choses différentes de moi, mais lui, il aimait beaucoup Dire Straits.
Ouais.
Il était très influencé par Dire Straits. Et il y a eu, je crois qu'il a été influencé par un long morceau comme ça de Dire Straits où il y avait du saxophone. Je ne sais pas lequel. Mais bon, toujours est-il qu'il avait été, il avait voulu mettre en avant justement cette fin de Petite Fille. Donc toute la phrase qu'il développe, c'est lui qui le fait à la guitare. Moi, je fais que. Mais l'idée, c'était de rejouer cette phrase, qui est une phrase assez longue, qui est une espèce de mélodie.
Ouais. C'est une boucle.
On retient comme ça, et voilà, c'est une boucle. De rejouer, donc de la jouer plusieurs fois de suite, et d'arriver à chaque fois qu'on la joue à faire monter un peu la progression, faire monter l'intention, l'émotion, pour arriver à une espèce de paroxysme.
Ouais.
D'accord ? On est prêt, c'est ça la force de cette idée, de ce morceau, c'est qu'on est pris par cette montée d'intensité. On sent vraiment la force émotionnelle qui se déploie, en fait. Voilà, je trouvais qu'il y avait quand même une possibilité de s'exprimer, une possibilité de servir aussi cette musique qui était celle de Jean-Jacques, avec ses paroles, cette profondeur. Et on voit bien, si les gens aiment toujours ça maintenant, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui reste, quoi, qui est imprimé chez les gens.
Mais je pense que les gens vous ont également... Enfin, véritablement pas oublié. Et je suis allé me promener sur YouTube et je vais vous lire quelques commentaires. Merci prof Pimpin pour ce solo qui a marqué ma vie. Il est énorme, il a ajouté une vraie touche au morceau de Jean-Jacques Goldman. L'excellent prof Pimpin au sax, un son unique, une ambiance unique, une époque. Merci prof Pimpin, merci Claude, Jackie et les autres. Et sur une autre vidéo qu'on diffuse d'ailleurs sur Mélodie, une émission swing du 19 janvier 1985, Pimpin apportait vraiment quelque chose de profond et subtil à la musique de Goldman. Et ses solos demeurent inoubliables. Très chouette vidéo live, en tout cas. Enfin bref, on pourrait continuer pendant des heures. Et je voudrais juste, avant que vous réagissiez sur ces commentaires, vous mettre un extrait de votre solo sur Veillez tard. Waouh, quel solo. Ça vous fait quoi, prof Pimpin, que le public continue à vous envoyer des messages comme ça sur les réseaux 40 ans après?
C'est extrêmement gratifiant, hein. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien, puisque on se rend compte que, enfin moi je me rends compte, voilà, qu'on n'a pas fait ça pour rien, que les gens ont été touchés, et c'est ça qui est important. Moi, après, c'est pas... Comment dire ? C'est pas spécialement pour moi en tant que tel, parce que moi, je me connais depuis que je suis né. Donc, je sais qui je suis et je sais pourquoi je suis là. Mais Voilà, c'est surtout le fait d'avoir réussi, en tout cas, d'avoir réussi à faire passer un certain nombre d'émotions, un certain nombre de sentiments, un certain nombre de questionnements, on va dire, de préoccupations, voilà, c'est ça qui fait notre humanité. Enfin, on voit notre l'humanité est tellement, on parle beaucoup, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de violences, beaucoup de conneries, beaucoup de tout ça, et on se rend compte que, en fait, c'est pas là où on se réalise, c'est pas dans tout ça, c'est là où on communique, là où on se réalise, là où on se sent vivre.
Ouais.
Et ben c'est quand on vibre sur les mêmes choses. La musique est là pour ça.
Mais dans votre
et
vie,
voilà.
D'ailleurs,
j'aimerais.
Ouais. J'ai une question dans votre vie. Il y a un morceau sur entre gris clair et gris foncé qui se termine comme ça. Écoutez.
Rien qu'un tout petit bonhomme. Mal habillé, rêveur, un peu loupé en somme. Croyait inutile la nuit des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il imite en temps de l'armée de douleur. Les rêves de sa vie, les prisons de son cœur.
Est-ce que dans cette vie de scène, dans cette vie de collaboration, et même avec Jean-Jacques Goldman, il vous est arrivé des fois, prof Pimpin, de pleurer sur votre saxophone? Parce que vous parlez de tous ces beaux projets, mais est-ce qu'il y a eu des moments tristes dans cette belle musique?
Alors, c'est pas des pleurs de tristesse. Il faut bien distinguer les pleurs de tristesse lorsqu'il nous arrive un événement tragique, dramatique, etc. Non, ce sont des pleurs d'émotion. C'est des...
Ouais.
Je fais la différence parce que c'est des pleurs de, c'est plus existentiel, si vous voulez, que c'est plus sur la condition humaine en tant que telle. Et donc voilà, donc pleurer sur son saxophone, c'est ça, c'est exprimer aussi la difficulté qu'on a de vivre et d'être humain. Et voilà. Et par exemple sur le entre guillemets et foncé, moi Jean-Jacques m'invite me convoque en studio pour enregistrer. Alors déjà, j'enregistre sur un morceau moins connu, mais très intéressant, il s'appelle « Tout petit monde ». Et donc, dans cette chanson « Tout petit monde », il me demande de faire des choses un peu barrées, etc., etc. Donc, je fais ça. Et puis après, il me dit « Tiens, il y a un moment, tu vas jouer sur cette chanson-ci ». Et là, il ne me dit rien. Et j'entends « Il changeait la ville », donc j'entends le truc. Etc. Puis j'entends... j'entends les paroles de la chanson. Il m'avait rien dit. Hein. Et là, j'étais là, je dis mais c'est quoi, il parle de moi ou quoi, c'est quoi cette histoire? Et en fait, on se l'est jamais, enfin, il me l'a jamais vraiment dit. J'ai joué, j'ai enregistré, et j'ai dû peut-être lui poser subrepticement la question en disant mais c'est quoi, tu parles de. Mais lui, il a, je pense pas qu'il m'aurait répondu. Des fois, il y avait avec Jean-Jacques, il y a ça. C'est, comment dire
une certaine
on se
pudeur.
Comprend au travers des émotions plus que des mots.
Au travers de la musique.
Vous voyez on se, voilà.
Et, oui.
Et donc, je crois qu'il ne m'a jamais dit que c'était sur moi. Hein. Je ne crois pas. Hein. Donc, si ça se trouve, c'est même pas moi. Hein.
Mais vous gardez, j'ai l'impression, de bons souvenirs de cette période de Goldman, mais aussi et surtout, on se demande tous pourquoi vous avez pas continué. Vos chemins se sont séparés en 89, il me semble, pour après Goldman est parti avec Frédéric, Goldman Jones.
Voilà. Et voilà, c'est ça. C'est en fait Jean-Jacques à la fin de la tournée 89. On avait fini en Polynésie, on avait fini aux États-Unis et aux Antilles. On avait fait une tournée un peu hors les murs. Et on était rentré à Paris. Et donc ensuite, Jean-Jacques m'avait appelé, il m'avait dit « il faut que je passe te voir ». Je lui ai dit « ah bon ?» C'est bizarre parce que ça n'arrive jamais. Donc moi, j'habitais dans le 18e à l'époque, rue Marcadet. Donc il passe me voir, puis il me dit « tu sais… la prochaine tournée, je ne te reprendrai pas parce que j'ai décidé de m'occuper de la carrière de Michael et de Carol. Donc Michael Jones et Carol Fredericks. Donc j'ai décidé de fonder une espèce de trio comme ça. et on va donc du coup je vais pas avoir j'aurai pas le même rôle pour toi, etc. Donc on va prendre des cuivres mais plus en section, etc. Et donc et puis bon, c'est vrai qu'il y a eu, il y avait eu aussi quelques petits problèmes humains sur la tournée par rapport à bon, comme il arrive dans tous les groupes, hein, il y a eu des de temps en temps des petits malentendus, des petites voilà, mais bon. Et donc Jean-Luc m'avait dit ça, il m'avait dit ben voilà, je te reprendrai pas pour la prochaine tournée. Puis il m'avait dit il est temps pour toi aussi que tu fasses tes trucs personnels, etc., etc. Et j'ai dit, bon, bah, écoute, ok, c'est vrai, ça m'avait surpris, j'avais trouvé ça. Enfin, ça m'avait surpris, en même temps, je comprenais, je m'y attendais quelque part. Ouais. On avait fait une très belle collaboration qui avait duré 7 ans, extrêmement fort, extrêmement plein, avec beaucoup de belles réalisations. Et donc, voilà, bon, Jean-Jacques, c'est quelqu'un quand même qui est, il faut le reconnaître, qui est quand même à la fois très intelligent, mais très individualiste en même temps. Il est très personnel d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire que c'est, et puis il aime bien quand même, il aime bien diriger, il aime bien, enfin quand je dis diriger, c'est pas être, comment dire,
oui, il sait ce qu'il veut, il a une vision de la musique et de son œuvre.
C'est pas être autoritaire, mais il veut contrôler quand même tout ce qui se passe. C'est quand même, voilà, c'est son truc à lui. Je pense aussi que c'est une espèce de, c'est, voilà, quand quelqu'un est assez timide à la base, bah pour s'affirmer, il a besoin peut-être d'être encore plus, de sentir qu'il a plus de contrôle. C'est une façon aussi pour lui de,
voilà. Et vous gardez contact aujourd'hui avec lui?
De pouvoir s'affirmer. Alors non, malheureusement, ça non. Ça, d'accord, c'est dommage, c'est que depuis le moment où il m'a dit ça, on s'est croisé un peu. Bon, après, on s'est croisé pour des circonstances malheureuses quand il y a eu le. Quand Sirima a été assassiné,
bien sûr,
ça a été peu de temps après, donc là on s'est retrouvés, mais dans des circonstances malheureuses. Après, je suis allé les voir en concert quand ils jouaient avec Goldman Frederick Jones, donc j'étais encore à Paris. Puis après, moi je me suis installé assez vite à La Réunion en 93. Après, Goldman est venu une fois ici, je ne sais plus quel, 98, je crois. Ou 90, et j'avais été le voir, j'avais joué un morceau avec lui sur scène, ici à La Réunion, et en fait, depuis, après, plus aucune nouvelle. Bon, voilà. Moi, j'ai pas cherché non plus à en avoir, oui, ou à en donner spécialement de ma part, hein. Mais voilà, bon, bah après, je pense pas, on n'est pas en mauvais terme, on est juste pas en terme.
Les chemins se sont, oui, les chemins si se sont séparés.
Si ouais. Voilà. Bon, je pense que de toute façon, il a tellement de choses à faire. Non, mais je sais qu'il y a des anecdotes assez amusantes. Par exemple, c'est moi qui lui ai fait rencontrer Coluche pour Les Restos du Cœur à l'époque. Quand on avait fait une émission de Deniso, et où Coluche, que je connaissais un peu, était venu me voir et m'avait dit, tu sais, j'ai un projet humanitaire, là, j'ai un projet caritatif et je voudrais que quelqu'un me fasse une chanson. Et j'ai pensé, la personne en ce moment qui a le plus de succès en France, c'est la personne avec qui tu travailles, c'est Goldman qui est là. Et il m'a dit, tu pourrais pas lui en dire ces deux mots? Je lui ai dit, bah oui, si tu veux. Et puis, on était tous les deux avec Jean-Jacques, on avait fait une émission de Deniso où je sais pas pourquoi on s'était retrouvés juste tous les deux. Peut-être parce qu'on faisait justement Veiller tard ou je sais pas quoi, un morceau juste à deux. Et donc, j'avais dit à Jean-Jacques, ben voilà, tu sais, il y a Coluche qui cherche à te. Qui aimerait te croiser. Ah, il dit, ah ouais, tu crois, Coluche, il est quand même un peu sulfureux, un peu si. Jean-Jacques, il avait un peu peur par rapport à ça, par rapport. Lui, il n'aimait pas trop les. Voilà. Et je lui dis, non, mais t'inquiète, là, c'est vraiment pour un truc caritatif, ça vaut le coup, c'est ça. Puis tu vas voir, il est dans la vie, il est beaucoup plus. Enfin voilà, il n'est pas en représentation tout le temps. Donc, et c'est comme ça qu'ils se sont parlé, qu'ils ont fait des Restos du Cœur.
Mais c'est génial comme anecdote.
Auquel je n'ai d'ailleurs même pas participé. Voilà. Mais puisque j'étais plus dans le groupe. Donc voilà, moi je garde que les bons souvenirs. Et puis voilà.
Et si vous avez un message à faire passer à votre public, aux gens qui vous écoutent encore aujourd'hui à La Réunion dans vos tournées, mais aussi à Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce que vous leur diriez à ces deux entités?
Allez, bon, alors, continuez à être curieux, n'ayez pas peur de la nouveauté aussi, mais pas, enfin pas de la nouveauté, mais n'ayez pas peur d'aller chercher des choses qui ne sont pas forcément très connues non plus, de vous ouvrir à des choses, voilà, d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir l'esprit ouvert et puis d'avoir aussi, surtout beaucoup de... comme dans les rapports humains, quoi, avoir de l'ouverture, avoir ce désir de rencontrer vraiment l'autre. Et par rapport à Jean-Jacques, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser un de ces quatre. Pourquoi pas de refaire un peu de musique ensemble et surtout de pouvoir se parler un petit peu de tout ça. Et...
Mais merci en tout cas, prof Pimpin, je vous propose que l'on se quitte sur.
Merci à vous pour.
Oui.
Merci à vous pour avoir pensé à moi et pour cette interview.
Merci
et
pour votre gentillesse.
Je salue tous vos auditeurs avec beaucoup de respect, d'humilité et de sourire.
Ben voilà, mais ça vous correspond bien. On vous par votre musique, par les vidéos, vous pourrez retrouver déjà sur Mélodie les émissions que l'on diffuse, mais également les chansons que vous entendrez sur Mélodie Radio. Et voilà, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous sur Mélodie. Et je vous propose qu'on se quitte
merci.
Sur une chanson, un extrait encore, un dernier extrait de Trace en 89, Peur de rien, blues. Écoutez.
Ah, oui, oui, oui.
Ou un saxophone, c'est ça?
Oui, bah oui.
Merci prof Pimpin.
Moi c'est plutôt, voilà, j'ai peur de rien avec un saxophone dans les mains, mais bon, et dans la bouche tant qu'à faire.
Exactement, merci beaucoup.
Bon, merci à vous, et puis bonne continuation, soyons forts, et surtout que l'amour triomphe. Voilà.
C'est le mot de la fin,
merci à
très bientôt sur Mélodie.
Au revoir.